La situation politique, elle est apparemment bonne, puisque nous venons de passer par un certain nombre d'élections. Ça s'est passé sans problème, mais je dois dire qu'il n'y a pas eu une grande mobilisation. Et je ne peux pas cacher que c'est un peu une déception. Il y a des institutions qui semblent fonctionner. Depuis 2 ans et demi, il n'y a plus de rébellion. Et donc la situation sécuritaire est très bonne, encore que ça puisse changer d'un moment à l'autre à cause de facteurs extérieurs qui viennent de la Libye et du changement de pouvoir là-bas, à cause des événements dans le nord-est du Nigeria. Mais disons que, par exemple, le président de la République s'est attelé à la réforme de l'armée de manière très courageuse, parce qu'il a dégraissé l'armée de manière drastique en convoquant tous les militaires à 300 km au nord de N'Djamena et en radiant un bon nombre, parce que c'était des militaires squatteurs de leur statut de militaire. Donc ça, c'est très positif, mais nous sommes un peu inquiets de savoir ce qu'ont devenir tous ces militaires, disons, radiés, parce qu'il y a beaucoup d'armes qui traînent dans la région, et surtout celles qui viennent de Libye depuis quelques semaines.
Ça vous fait peur?
Non, ça ne nous fait pas peur. On en a vu d'autres au Tchad. Mais ça fait peur pour la paix du pays, oui.
Le Tchad est aussi touché par la sécheresse et la famine. Comment la population fait-elle face au quotidien à ces difficultés?
La population, au quotidien, par rapport à la sécheresse, bien, c'est des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau, je pense, ça c'est le travail des femmes, et ça c'est absolument incroyable. On ne peut pas se rendre compte de ce que ça représente dans la vie d'une femme, soit porter sa cruche sur la tête sur 6 ou 7 kilomètres ou même plus, sur un âne. Alors il faut toute une journée entière pour aller réapprovisionner la maison en eau, ça c'est la première réaction, c'est une réaction subie. La deuxième réaction, c'est de s'organiser, c'est-à-dire soit de construire des diguettes pour, à la saison des pluies, casser le ravinement des eaux, permettre l'infiltration de l'eau et le réapprovisionnement des nappes phréatiques. Pour la sécurité alimentaire, qu'est-ce que font les chrétiens? C'est de donner un peu de consistance à cette institution qui, pour nous, est extrêmement importante et qu'on appelle « banque de céréales ». Le mot « banque », il faut le prendre très au sérieux. Donc le capital de ces banques villageoises, c'est du groupement villageois, ils ont comme capital une quantité X de grains qui souvent, au départ, leur ont été prêtés par l'Église catholique. Et puis, ces graines, ils les prêtent au moment de ce qu'on appelle la soudure, c'est-à-dire le moment le plus dur où les greniers sont vides et les premières pluies arrivent, et il faut simultanément trouver des semences et deuxièmement trouver de la nourriture pour avoir la force d'aller cultiver. À ce moment-là, on prête du propre capital de la banque villageoise des grains pour la famille, et ils rembourseront à la récolte avec un petit intérêt qui permet d'augmenter progressivement le capital et pouvoir rembourser ce qui leur a été prêté au départ, et que l'institution prêteuse puisse, avec ce qui a été remboursé, créer de nouvelles banques de céréales.
Vous évoquiez tout à l'heure la Libye, où ils étaient nombreux à fuir pendant la révolte vers le Tchad. Comment ont-ils été accueillis, ces réfugiés, dans la mesure où les ressources déjà dans le pays sont relativement limitées?
Vous savez, ces réfugiés venant de Libye, c'était des Tchadiens, ils sont retournés chez eux, même s'ils étaient installés depuis longtemps en Libye. La capacité qu'ont les Tchadiens, généralement les pauvres, à partager le peu qu'ils ont est absolument surprenante pour nous, les Occidentaux. Moi, je l'ai vu de près dans l'Est tchadien, donc aux frontières du Darfour soudanais. Pendant près d'un an, ils ont accueilli leurs frères du Darfour, évidemment. Ils y étaient aidés par le fait que c'est les mêmes ethnies qui sont présentes de part et d'autre de la frontière. Donc, bien le peu qu'on a, on le partage, crois que c'est peut-être un peu simple de dire ça, mais c'est ce que je constate tous les jours.
Au Tchad, une bonne moitié de la population est musulmane. Est-ce que vous pouvez nous parler de la situation interconfessionnelle et de vos relations avec l'islam ?
Je trouve que les relations entre chrétiens et musulmans sont plutôt bonnes au Tchad, même si à deux niveaux. Disons, dans les régions à majorité musulmane, c'est sûr que, étant donné le caractère encore très lacunaire de la formation musulmane et la force, disons, négative d'être une majorité musulmane, n'encourage pas les musulmans à accueillir, surtout lorsque c'est des minorités qui viennent du Sud à l'accueillir dans les maisons. Donc c'est parfois difficile de trouver une location, parfois on se heurte à une intolérance, ça c'est sûr, c'est un premier motif. Le deuxième motif que j'avais annoncé, c'est qu'il y a aussi à l'intérieur du Tchad, agissant, des mouvements musulmans plus radicaux qui évidemment n'œuvrent pas pour une coexistence pacifique. Mais lorsque je vois comment dans toutes les villes du nord, dans notre diocèse, nous construisons des églises, les chrétiens se réunissent, et jusqu'à présent en tout cas, l'idéologie, au bon sens du mot, de l'État étant celle de la laïcité, ça favorise une présence simultanée des deux communautés sur le même territoire.
Quelle est votre principale préoccupation aujourd'hui pour le Tchad ?
Ma principale préoccupation pour le Tchad, c'est la citoyenneté. C'est-à-dire que le citoyen puisse croire qu'il a barre sur la vie quotidienne de son pays, sur les choix de son pays, qu'il arrive à résister aux sirènes du clientélisme, parce qu'il y a quand même un pouvoir qui est tellement majoritaire que lorsque surtout la pauvreté te pousse à trouver des moyens de subsistance, c'est difficile d'échapper à la pression de la majorité politique où tu peux trouver des avantages. Alors, soit il y a du clientélisme, soit il y a une démobilisation citoyenne, et moi ce que je souhaite, c'est que les Tchadiens puissent croire qu'en s'unissant, ils peuvent agir. Et la deuxième chose, évidemment, c'est que les croyants chrétiens et les croyants musulmans, chacun de son côté, ne cèdent pas à la peur et qu'ils puissent ensemble vivre une collaboration, ce qui se fait très bien dans nos œuvres sociales, et je dirais, à travers cette collaboration, une véritable émulation spirituelle.